Vous êtes sur RTL.
Les explications et les infos du patron du raid après la prise d'otage d'hier à Blagnac près de Toulouse. Le forcené qui avait relâché les 4 salariés qui le retenaient a finalement été neutrisé peu avant minuit. Un mineur de 17 ans au profil de petits délinquants apparemment dépressifs qui faisaient quelques références aux gilets jaunes. Profil atypique, les discussions ont duré plus de 7 heures. Une opération délicate qui s'est donc terminée par un succès pour les hommes du raid. Leur chef, Jean-Baptiste Dullion, nous explique dans 20 minutes les dessous de cette négociation, donc qui aura duré jusqu'au bout de la nuit. RTL Soir, première édition, c'est avec vous Isabelle Choquet, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et les autres titres?
Le Royal Baby a enfin un prénom, il s'appelle Archie. Un prénom et un visage puisqu'il a été présenté aux yeux du monde ce matin. Nous serons à Londres dans un instant. Les fonctionnaires des villes vont devenir des fonctionnaires des champs. Gérald Darmanin veut déplacer en région les 3000 agents de la direction des finances publiques. À suivre également le grand mal-être des internes en médecine. De nouveau, une étudiante s'est suicidée à Lyon. Les cérémonies du 8 mai, témoignage dans ce journal de l'un des derniers médaillés de la résistance. Et puis, le mystère du rocher du Carreau en Bretagne. 2000 euros à gagner pour qui déchiffrera l'étrange inscription qui y est gravée. La Bourse de Paris, elle termine ce soir en hausse de 0,40% à 5417 points. Les courses à Lyon-Paris, il fallait jouer le 15, le 5, le 10, le 12 et le 8.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. En ce 8 mai et après les cérémonies devant la tombe du soldat inconnu, on vous dira ce que sont devenus les casseurs de l'Arc de Triomphe du 1er décembre. À 18h25, direction les coulisses de l'actu, on vous emmène ce soir en coulisses du combat du CIWF. Cette ONG qui défend l'agriculture durable veut faire interdire l'élevage des animaux en cage et nous verrons comment elle se fait entendre. À 18h30, votre rendez-vous avec Alain Duhamel qui nous dira ce soir si on peut réformer l'Europe. Et à 18h35, la référence en matière d'histoire politique, Michel Vinocq, il publie un ouvrage collectif d'historiens sur les figures de proue de la gauche depuis 1789, de Condorcet à Laguillé. Ce sera donc tout à l'heure à 18h35. La météo maintenant, tout de suite. Louis Baudin, ça va souffler ce soir, attention, près de l'Atlantique.
Exactement, hein. Bonsoir Vincent, c'est vrai qu'on attend une petite tempête là sur la côte atlantique et notamment sur la Charente-Maritime, sur la Vendée. C'est là où les plus fortes rafales sont attendues, entre 20h et minuit à peu près, avec des valeurs qui pourraient atteindre les 110 ou 120 km/h. Ça donnera dans l'intérieur des terres des rafales de 70 à 90 km/h durant la nuit prochaine. Tout ça accompagné encore de régimes d'averses que l'on retrouve demain dans la plupart des régions, avec un vent assez fort dans la moitié nord, sera moins fort que durant la nuit, 60-70 km/h, avec des averses parfois accompagnées d'orages, toujours de la neige en montagne. Il y aura un peu plus d'éclaircies en Bretagne ou encore près de la Méditerranée, avec là du Mistral et de la Tramontane. Et puis côté température, comme aujourd'hui, pas de gelée en pleine le matin, 15 à 17 degrés l'après-midi dans la moitié nord, 18 à 23 dans le sud. C'est toujours un peu en dessous des normales pour la période.
Merci Louis, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Allez, on prend tout de suite la direction de l'Angleterre parce que ça y est, le Royal Baby a enfin un prénom.
Oui, nous rejoignons tout de suite Marie Billon, la correspondante d'RTL à Londres. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Alors après deux jours de suspense insoutenable, à vous l'honneur, redites-nous comment s'appelle ce bébé?
Il s'appelle Archie Harrison. Alors là, on ne s'y attendait pas du tout.
Mais alors pas du tout. Archie n'était pas du tout dans la liste des possibles. Hein. C'est un prénom un petit peu espiègle. On est en train de ressortir les arbres généalogiques pour voir s'il y a eu un Archie un jour, ou même un Archibald chez les monarques britanniques un jour. Mais Harrison, par contre, c'est clairement américain. Le couple a annoncé ça sur son compte Instagram, avec aussi une photo de famille. On voit Meghan tenant le petit Archie, admiré par la reine et son époux tout sourire, juste à côté de Doria Raglan, la mère de Meghan.
Alors Marie, il a donc maintenant un prénom, il a aussi un visage, hein, et pas seulement en photo. Harry et Meghan ont en effet présenté leur fils ce matin dans le hall Saint-Georges du château de Windsor. Soyons honnêtes, hein, si je le croisais dans la rue, je ne le reconnaîtrais pas, on l'a à peine aperçu en fait.
Non, mais c'est pas exprès. Hein. Connaissant Harry, il protège sa petite famille de l'œil des curieux. Et puis c'est vrai qu'on l'a senti un petit peu chafouiné, le Harry, avec son bébé dans les bras, comme s'il tenait une poupée de cristal. Et c'est vrai qu'enveloppé dans une couverture blanche, bonnet sur la tête, on a juste aperçu un tout petit nez rose. Il a déjà des airs de son papounet, plaisant Harry quand même.
Il a même déjà un peu de barbe, c'est merveilleux. C'est super d'être parent, on est tellement content d'avoir notre petite boule de bonheur à nous.
Meghan tenait le bras de son époux, la main posée sur la tête de son petit Archie, en les regardant tous deux avec amour.
C'est magique, extraordinaire. J'ai les deux meilleurs gars du monde, je suis très heureuse.
Le bébé a été très calme hein, dans le grand hall de Saint-Georges, là où ses parents avaient tenu leur banquet de mariage il y a simplement un an. La maman et le papa avaient quand même l'air bien fatigués dans ce décor grandiose. Il faut dire que les insectes sont monsieur et madame tout le monde. Ils n'ont pas voulu de nounou pour leur petite Archie.
Merci Marie Billon, correspondante d'RTL à Londres.
Voilà, et puis welcome donc Archie. Allez, on revient sur cette longue prise d'otage d'hier à Blagnac. Ça s'est terminé en pleine nuit, Isabelle.
Ouais, le preneur d'otage a été arrêté vers minuit. Il n'a que 17 ans. Les quatre femmes qui étaient retenues depuis le milieu de l'après-midi dans le bar PMU avaient toutes été libérées saines et sauves en début de soirée. Sarah est l'une des employées de ce bar. C'est un document RTL.
Il m'a montré son arme en fait et il m'a dit de baisser le rideau sinon il allait tirer. Il a commencé à nous donner ses revendications. C'est la branche armée, pour reprendre ses mots. La branche armée des Gilets jaunes, donc voilà.
Et qu'est-ce qu'il revendiquait ?
Une France égalitaire. Et il a choisi un bureau de tabac parce que c'était un commerce qui était énormément taxé.
Il avait son arme, il vous a menacé avec ?
Ah oui, il avait son arme, il a tiré à deux reprises au plafond. Il nous a menacé avec, il nous a ligoté, il nous a attaché les mains. Après, honnêtement, enfin... Il était gentil quand même. Il nous a donné à boire, il nous a donné à manger. Il nous a permis de téléphoner aussi. Ça aurait pu être pire, quoi. Ça aurait pu être pire.
Voilà, document RTL que vous avez recueilli à Blagnac. Patrick Tégéraud, bonsoir.
Bonsoir.
On en sait un peu plus hein, ce soir sur ce tout jeune preneur d'otages de 17 ans, on le répète. On a découvert notamment que son arme, finalement, était factice.
Oui, et les otages le soupçonnaient un peu, car quand il a tiré deux fois en l'air en fin d'après-midi dans le bureau de tabac, la patronne s'est étonnée qu'il n'y ait pas d'impact au plafond. Le jeune homme a répondu, sans se démonter, que les deux premières balles de son chargeur étaient des balles à blanc, mais pas les suivantes. Yanis avait franchi le kilomètre 500 qui sépare sa cité du tabac en vélo électrique, un engin qu'il a appuyé sur la façade de l'établissement. Il a dit à ses otages que son vélo était piégé. Son comportement aussi pendant la prise d'otage est étrange. Il l'a affirmé à ses victimes et sur les réseaux sociaux, il appartient à une milice armée pour obtenir un état plus juste dans la mouvance des Gilets jaunes. Un ton ferme, mais courtois, voire prévenant. Un garçon bien élevé, somme toute, mais aux propos confus, aux objectifs obscurs. Désespéré aussi par son état de santé, il serait dépressif. C'était écrit dans la lettre qu'il a laissée en évidence au domicile familial. Les policiers ont craint jusqu'au bout, en fait, qu'il ne se suicide. Il leur avait annoncé qu'il détenait des explosifs et qu'il avait aussi piégé le magasin. En garde à vue ce matin, il est redevenu l'enfant sage, poli et respectueux des policiers en particulier. Il leur a donné des explications, il a précisé même ses motivations. Il sera aussi très bientôt l'objet d'une expertise psychiatrique.
Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL et je vous rappelle que dans quelques minutes, on y reviendra avec le patron du RAID, Jean-Baptiste Durion. Gérald Darmanin veut donc mettre les villes à la campagne, ou plus exactement, les fonctionnaires des villes en région.
Emmanuel Macron a promis des baisses d'impôts de 5 milliards d'euros, mais comment les financer ? Eh bien, dans une interview au Parisien, le ministre des Comptes publics évoque la réduction de certaines niches fiscales des entreprises, mais aussi la déconcentration. Et il avance un exemple très concret, déplacer les services de la Direction Générale des Finances Publiques en province, surtout dans les zones rurales. Cela fait environ 3 000 agents. Qu'en pensent les élus locaux ? Réponse avec vous. Samuel Goldschmidt dans les Vosges.
Alors vu depuis le village des Voivres, 320 habitants, loin d'Épinal, le projet est bon si les fonctionnaires voient vraiment la campagne. Et là le maire Michel Fournier voudrait en être bien sûr.
Bon, si ce sont des services, ça veut dire que c'est un service complet qui s'en va. Ce service complet, s'il s'en va, il ne viendra pas au Voivre, hein. Ça c'est sûr. Hein. Il viendra plutôt sur Nancy, Metz, Strasbourg ou Nantes. Hein. D'accord ? Donc là, ce n'est pas vraiment la ruralité. Si la volonté affichée, c'est pour effectivement redéployer du personnel dans la ruralité, bon, ben, très bien, mais à ce moment-là, que l'on ne ferme pas les trésoreries, par exemple, ça dépend qu'est-ce que l'on veut faire exactement. On n'a pas vraiment l'information.
Olivier dirige le dernier restaurant du village. Il aimerait bien voir la couleur de ses fonctionnaires lui aussi.
Ne serait-ce que pour la déclaration d'impôt. Moi, j'ai ma belle-mère qui a 85 ans, qui ne sait pas ce que c'est qu'un ordinateur. Elle a besoin de conseils. Détacher des fonctionnaires pour aider ces gens-là, c'est important.
Mais on voudrait être bien sûr et en voir encore d'autres, à commencer par des enseignants par exemple. Au Voivre, il y a encore une classe qui est menacée de fermeture à la rentrée prochaine.
Reportage RTL de Samuel Goldschmidt dans les Vosges. Un Airbus A340 d'Air France a dû se poser en urgence aujourd'hui à Isparan. Ce vol Paris-Bombay aux couleurs de jaune transportait 264 passagers. Il y a eu un dysfonctionnement du circuit de ventilation dans l'avion.
Allez, on marque une courte pause dans le journal d'Isabelle Choquet. On se retrouve dans un instant avec le malaise des internes. Avec un nouveau suicide à Lyon. À tout de suite.
Il est 18h10. RTL Soir.
Il est 18h11, RTL Soir avec Vincent Parisot et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Et des internes donc au bout du rouleau, les syndicats poussent un coup de gueule après un nouveau suicide à Lyon.
Oui, c'est une jeune stagiaire des hospices civils de Lyon Sud qui s'est donné la mort jeudi dernier. Un suicide apparemment lié à son mal-être au travail. Les étudiants en médecine peuvent faire jusqu'à 80 heures par semaine. Dans l'hôpital à Lyon, l'émotion est très vive, Nerissa Emani.
Effectivement, le passage à l'acte de la jeune femme originaire de Paris en 7e année de médecine a ému tous les internes ici aux hospices civils de Lyon Sud.
Parce que le paradoxe, c'est qu'on essaye de prendre soin justement des gens et puis quand il y a un soignant qui se suicide, c'est sûr que c'est toujours triste.
D'autres sont moins surpris. Eric est interne en chirurgie et il a lui-même failli craquer plusieurs fois.
C'est un système qui te pousse à travailler tout le temps et qui t'épuise. T'énerves vite, quoi. On sait même plus ce que c'est que ne pas travailler. On est omnibulé par l'hôpital tout le temps.
Le jeune homme déplore le manque de suivi des internes, aucune visite médicale par exemple, un problème dont est conscient le secrétaire général des hospices de Lyon, Patrick Daigniel.
On est confronté à un déficit par rapport à nos postes de médecins du travail. Et lorsqu'on a en début de semestre parfois 300 internes qui arrivent, c'est difficile à un moment donné de pouvoir voir tout le monde. Cette jeune femme avait tendance à partir tard, sans doute trop tard, et c'est sans doute un élément de prévention complémentaire que l'on pourra utilement travailler avec les responsables médicaux.
Et hasard du calendrier, dans 10 jours, ouvrira pour la première fois un centre de prévention et d'intervention contre la maltraitance des étudiants et des internes aux hospices de Lyon.
Reportage RTL signé Nerissa Emani.
Les cérémonies du 8 mai 45, c'était ce matin à Paris sous une pluie battante.
Une pluie publique clairsemée pour ce 74e anniversaire de la victoire contre le nazisme. Emmanuel Macron a ravivé la flamme sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Il a ensuite salué l'assistance, ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, et bien sûr les anciens combattants, parmi eux Guy Jarry. Il a 93 ans.
J'aime plus beaucoup maintenant, je suis dans les derniers. Dernier déporté, résistant. J'étais le plus jeune et j'ai voulu recruter un groupe de résistance. On était 15 quand j'étais arrêté. On a 6 déportés et on était contre les Allemands. Et puis De Gaulle, avec son discours, nous a confortés pour continuer la résistance. Et puis on a fait des coups de main aux prisonniers militaires de la Flèche pour chercher des armes.
Vous avez été arrêté.
Ah oui, oui, par la Gestapo, torturé. Je devais être fusillé à Angers. Puis je suis parti dans les camps de concentration. Buchenwald, Mauthausen et Gusen.
Ce choix de combattre l'ennemi, qu'il soit allemand ou le régime de Vichy, ça vous paraissait normal?
Absolument, parce que tout ce qu'on a vécu en 1940, quand on a vu les Messerschmitt qui mitraillaient tous les civils.
Vous n'avez pas eu d'hésitation?
Ah, pas du tout. On était très patriotes, j'étais éduqué comme ça. Et j'ai toujours le même idéal de la France.
Guy Jarry, 93 ans, résistant et déporté au micro RTL de Pierre Julien. À l'étranger, Asia Bibi a enfin quitté le Pakistan, mais Justin Trudeau refuse de confirmer son arrivée au Canada pour des raisons de sécurité. La chrétienne avait été condamnée à mort pour blasphème dans son pays.
Allez, direction maintenant la Bretagne, parce qu'il y a quand même 2000 euros à gagner pour qui résoudra le mystère du rocher du Carreau.
Ouais, la commune a lancé un appel national pour déchiffrer une mystérieuse inscription gravée dans la pierre sur la presqu'île de Plougastel. C'est effectivement très énigmatique, Sophie Orange.
Mais oui, parce que pour le moment, personne n'a réussi à comprendre cette vingtaine de lignes gravées sur la pierre. Seules 3 dates sont très faciles à lire, 1786, 1787 et 1920. Pour le reste, Dominique Cap, le maire de Plougastel, est en plein doute.
Il y a des O, il y a des R, il y a des A. On pense qu'une partie peut-être du russe. Il y a des signes aussi, le symbole vendéen de l'époque, puisqu'on a, un cœur avec une croix dessus. On a également un symbole d'un bateau. Il y a plusieurs hypothèses, en fait. Personne n'a le moindre bout de début de réponse.
Est-ce peut-être le récit d'un naufragé au XVIIIe siècle, un charpentier ou alors des soldats russes basés dans ce coin de la Bretagne en 1920? Des historiens ont été contactés, des linguistes, des universitaires, mais toujours rien. Le maire a donc décidé de lancer un concours, le mystère Champollion, du nom de celui qui a su déchiffrer les hiéroglyphes de la pierre de Rosette. En 5 jours, les candidatures affluent.
De la folie. Là, on est à 1000 mails de France et d'étrangers, totalement stupéfaits.
Un jury de scientifiques récompensera le vainqueur, celui qui saura percer ce mystère, avec à la clé 2000 euros. Et depuis ce week-end, c'est la grande foule autour du rocher. Tout le monde veut tenter sa chance.
Merci beaucoup. Récit signé Sophie Orange.
Vous pouvez partir décrypté, mais vous revenez quand même tout à l'heure.
Mais avec plaisir, à 18h30.
À tout à l'heure. Et maintenant, les clés pour bien comprendre l'actualité.